philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 22 avril 1994.
Après avoir montré la distinction entre l'imagination, la représentation, la figure, l'image, l'icône, fruit d'imagination, il faut tout de suite saisir le fruit de quelque chose de distinct. Thématique n'est pas ce que est un mode particulier de vie. Et là, je distingue bien qu'il y a des regards divers sur l'intelligence. Le premier regard au plan philosophique, c'est la philosophie du vivant. J'ai un second regard sur l'intelligence, la métaphysique. J'ai un troisième regard sur l'intelligence, c'est la vision de sagesse. Et un quatrième regard sur l'intelligence, le point de vue critique. Et je crois qu'il faut toujours bien préciser quel regard on a. Et c'est peut-être là où on verrait la différence entre la vision de l'intelligence dans la philosophie hegelienne et dans la philosophie de Thomas d'Aquin, ou dans une philosophie réaliste tout court. Dans une philosophie réaliste tout court, je parle d'abord de la vie d'intelligence. Et c'est la vie de l'intelligence qui a quelque chose d'unique. Je peux parler de la métaphysique de l'intelligence, puisque la métaphysique, la philosophie première, existe pour connaître le nous et Dieu. Et je peux avoir un troisième regard sur l'intelligence dans un regard de sagesse. Je compare l'intelligence contemplative de Dieu et mon intelligence. Et enfin, un regard critique. Le regard critique est proche du regard de philosophie du vivant. Mais c'est différent, puisque c'est le regard critique consiste à essayer de comprendre ce qu'il y a de premier dans ma vie intellectuelle, le noyau fondamental de ma vie intellectuelle. La connaissance conceptuelle, c'est le concept que j'étudie spécialement en critique. Et le point de vue du jugement, qui est une connaissance complexe, le concept est simple, c'est le fruit d'une activité simple dans ma vie intellectuelle. Et puis, quelque chose de complexe qui est la proposition, l'énonciation. Et enfin, j'étudie le point de vue du raisonnement en critique de ce que nous faisons. Alors ici, je prends la vitalité de l'intelligence. Je suis en face d'une opération vitale, spirituelle. Autrement dit, dans les degrés de vie, je suis en présence d'un degré nouveau de vie. Une vie qui n'a plus d'organes physiques, qui cependant, dans son exercice, a besoin d'une image. Et c'est le lien entre ma vie spirituelle, ma vie intellectuelle et mon corps et ma vie sensible. Il y a un dépassement et il y a une continuité, comme toujours, dans les degrés de vie. Entre la vie végétative et la vie sensible, il y a un dépassement et il y a continuité. Le dépassement, c'est le point de vue d'une conscience, d'une connaissance. Dans la vie sensible, l'autre devient moi intentionnellement par la vision. Je vois l'écarlate d'une rose. Je vois la couleur. Et cette couleur, je la sens, puisque je la vois. Et je la porte en moi. Et exercice, il y a une certaine continuité entre ma vie sensible et ma vie. Et ma vie intellectuelle. Et cette continuité, je peux la remarquer que si je subis certaines opérations à la tête, au cerveau, ou si je subis une violence et une blessure au cerveau, il y a une répercussion qui se fait dans ma vie intellectuelle. Très bien empêcher ma vie intellectuelle en touchant certains organes sensibles de ma vie sensible. En touchant certains organes de ma mémoire. La mémoire implique, la mémoire sensible implique organe physique, physiologique. Si je blesse cet organe, il y aura une répercussion. C'est ça qui est très curieux. Je peux empêcher par là quelqu'un de penser. Je peux faire violence à l'intelligence, à l'exercice de l'intelligence, par le corps. N'est pas séparée du corps. Elle s'en sert. Mais elle n'est pas déterminée par mon corps. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, toute philosophie qui ne fait pas la distinction entre le point de vue de la, détermination de la cause spécifique et de la cause efficiente ne pourra pas faire cette distinction. Dans la phénoménologie, où la distinction entre la cause efficiente et la cause formelle ne se fait pas, j'aurai donc la tentation d'enfermer toute ma vie intellectuelle dans l'exercice de ma vie sensible. Et c'est pour cela que la phénoménologie ne pourra jamais aboutir à une connaissance métaphysique, à la saisie d'un principe métaphysique et même philosophique tout court. Elle restera dans l'ordre de la description. On décrit, alors on peut décrire un exercice, on peut décrire la, voyez, la complexité d'un exercice. Mais je ne peux pas saisir un principe. C'était mon père Ramirez qui me disait dans la philosophie moderne, et si je remonte jusqu'à Descartes, il n'y a plus aucun principe. Donc toute cette philosophie moderne à partir de Descartes n'apporte rien au point de vue métaphysique et au point de vue philosophique. Elle se développe dans l'ordre de l'extension, mais elle ne se développe plus dans l'ordre de la compréhension. C'était très juste comme jugement. Elle avait tout lu. Et c'est très vrai, il n'y a pas de principe chez Descartes. Il y a de la description. Il y a des lois. Et des lois, on les décrit. C'est pas un principe, c'est une relation. Et je reste au niveau de la relation, donc au niveau de la forme. Et je ne saisis pas le principe. Toute loi implique deux éléments. Le principe est indivisible. Donc, c'est plus la dyade, c'est l'un. Ça, c'est très important de saisir cela. Donc je reste toujours au niveau descriptif de l'image. mais universel, qui, de fait, reste toujours lié à la représentation. C'est pour ça que c'est la phénoménologie. C'est le logos du phénomène. Et le phénomène, le logos dans le phénomène. Donc toujours au niveau sensible. Je me représente toujours quelque chose. Et je cherche le fondement premier de la représentation. La vie intellectuelle peut naître à l'intérieur d'une représentation. Il y a une vie intellectuelle dans la phénoménologie, mais une vie intellectuelle qui refuse l'abstraction, qui n'aime pas l'abstraction, et qui ne la veut pas parce qu'elle veut rester à un niveau descriptif. Si je comprends que ma vie intellectuelle, tout en restant liée au domaine sensible dans l'ordre de l'exercice, peut cependant, dans l'ordre de la signification, aller plus loin, je peux à partir de là décrire, du moins analyser, quels sont les différents éléments, quels sont les différents moments de ma vie intellectuelle. Le premier moment de ma vie intellectuelle, c'est donc d'appréhender l'acuité. Et cela, j'en ai conscience. J'appréhende l'acuité des réalités dont j'ai l'expérience. Je peux, par rapport au chat, au petit minet, je peux me le représenter et je peux dire le chat est un animal. Dès que je dis que le chat est un animal, je reste au niveau de l'appréhension. Je reste au niveau de l'acuité. Animal, qu'est-ce que c'est que l'animal? L'animal, c'est un vivant de vie végétative et de vie sensible. L'animal a un instinct. Il flaire ce qui est bon pour lui, ce qui est mauvais pour lui. Et il mange ce qui est bon pour lui. Il y a donc avant l'assimilation végétative, une assimilation sensible qui lui permet de flairer ce qui est bon pour lui, ce qui est mauvais. Regardez un chien, quand on lui sert sa pitance, un chien domestique, et qui reste quand même chien, même s'il est domestique. C'est plus facile d'expérimenter la vie d'un animal domestique, d'un petit chat et d'un chien, quand on lui sert surtout quelque chose de nouveau, il flaire avant de se mettre à manger, et quelquefois il flaire puis s'en va. Il a flairé quelque chose qui ne lui allait pas par l'estimative. Il a senti, il a vu, il regarde. Quand vous lui mettez toujours le même pot, la même assiette dans laquelle il va manger, ça le met en continuité et il renifle beaucoup plus vite. Tandis que si vous mettez un vase tout à fait nouveau, il est inquiet. Il reviendra plusieurs fois pour être sûr qu'on ne va pas lui servir un poison. C'est très curieux, ça. Vous voyez, il n'y a pas de raisonnement, mais il y a un petit raisonnement matériel. Il renifle. Il voit. Il voit et il renifle, c'est plutôt ça. Il voit et il renifle. Et puis, à ce moment-là, il accepte de se mettre à manger. Donc là, je reste au niveau de la vie sensible. L'homme, l'enfant est beaucoup plus obéissant que l'animal pour la nourriture. C'est très curieux. Il fait confiance. Beaucoup plus. Mais quand il devient adulte, il fait moins confiance. Il y a une coupure. Alors, il sera attentif pour être sûr que ça ne va pas l'empoisonner. Et s'il est dans un milieu ennemi, il se demande un tout petit peu si ce sont de vrais amis ou si on l'a mêlé dans un guet-apens. Alors il faut qu'on attende.
Parole.
Parce que les gestes restent liés toujours à à une affectivité qui n'est plus d'ordre pratique, immédiate. Alors le sourire est plus lié à un état affectif qui est plus lié à l'universel, à une signification universelle, que le geste. Parmi les gestes, le sourire est le geste plus lié à l'intelligence. Je crois qu'il faut décrire tout ça aujourd'hui dans une philosophie du vivant pour voir comment on accède progressivement au langage abstrait, aux mots. Le chat est un animal. Quand l'enfant dit-il, le chat est un animal. Quand avez-vous dit ça en premier lieu? Vous n'avez pas dit ça tout de suite. L'enfant peut le répéter, mais il n'arrive pas à dire tout de suite, le chat est un animal. C'est déjà une signification universelle qui va assez loin. C'est un prédicable universel dans le langage. Et à partir de là, vous pouvez saisir qu'il y a vraiment une opération intellectuelle qui dépasse le point de vue de la cogitative, de l'estimative, qui dépasse le geste et qui a une signification universelle. Donc c'est le moment où on atteint une signification universelle que vous pouvez poser une faculté, une puissance qui est au-delà d'un organe sensible. Je crois que c'est vraiment le prédicable genre qui est le premier génétiquement à décoller par rapport à une signification singulière. Évidemment, on décolle lentement, mais vous ne pouvez pas représenter animal. Vous pouvez représenter tel animal, mais pas animal. Essayez de représenter animal à mille pattes, tout de suite mille pattes, vous voyez, avec des oreilles, tout de suite avec des oreilles. Vous tombez tout de suite dans le singulier dès que vous représentez. Tandis que si vous prenez animal et que vous pensez animal, vous pensez animal. Et vous voyez que c'est le fruit d'une pensée qui est au-delà de la représentation, qui est universelle, au-delà de toute représentation, signification universelle. Vous avez donc le premier moment du dépassement de la cogitative, de l'estimative, avec le prédicable générique. Et le prédicable générique est tout de suite lié à le prédicable, le nom, qui n'est plus générique et qui est différent spécifique, qui est le propre. Vous savez, animal, tel animal, tout de suite. Je ne crois pas qu'on demeure dans l'animalité comme tel, génériquement. Ça, c'est très difficile à préciser. Est-ce qu'on pourrait rester dans une connaissance purement générique, sans atteindre le propre? Je ne crois pas. Je crois que les prédicables, genre, propre, accident, les trois premiers, sont liés ensemble, et que l'un appelle l'autre. C'est intéressant du reste, parce que ça montre que l'intelligence est tout de suite, dès qu'elle est éveillée, elle ne veut pas rester au stade générique. Hein? crois donc qu'il y a un premier moment dans ma vie intellectuelle qui ordinairement se fait par le langage. Je crois que le langage, alors là, serait très intéressant à bien comprendre cela. La naissance des mots, la naissance du langage. Je crois qu'on apprend le langage avant la connaissance. Je crois que dès qu'il y a contact affectif de l'enfant avec la mère, un contact affectif qui se fait au niveau de l'estimative, au niveau de la nourriture, l'enfant instinctivement